Merci à Elise et à Laurence pour l'organisation de cette journée. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, mais juste d'emblée, ça commence par un constat, c'est que mon titre a été modifié parce que le contenu de cette communication a un peu évolué. Au départ, je voulais parler uniquement de l'alliance avec Montaigne, mais finalement, j'ai remonté dans les horizons de parenté. De Marie de Bournay et Laurence a rappelé en introduction qu'effectivement le mot ancien est celui de parentage, vous le verrez dans mon introduction, la raison pour laquelle je l'emploie aussi. Donc en 1626, Marie de Bournay, forte d'un privilège à son nom, publie la première édition de ses œuvres sous le titre de la Mademoiselle Bournay. Et parmi les textes se trouve un écrit particulier qui a fait l'objet de nouveaux articles. Et ce texte, c'est Apologie pour celle qui écrit. Alors, sous couvert d'une réflexion digressive sur les méfaits des fausses amitiés, Bournay s'offre ici propre portrait en écrit, victime qu'elle fut de ce qu'elle appelle aussi des amitiés d'intérêt. Et donc, celle qui écrit renvoie à la fois à celle qui compose ce présentait de l'apologie, mais aussi, ça a été étudié ainsi, à celle qui a choisi de se consacrer à l'écriture et à la prétention. Et donc, de ce texte a souvent été présenté comme une pièce graphique, puisque Bournay se fait sa propre apologète à travers quelques morceaux choisis de l'existence. Ce qui concerne en particulier sa difficile situation financière à la mort de sa mère en 1591, les stratégies qui furent les siennes pour remédier justement à cette difficulté. Et dans cette reconstitution des événements, qu'il faut vraiment garder à l'esprit, il y a une rédaction bien a posteriori, on est 30 ans plus tard après les événements, au sein d'un texte même les conjonctures et les contextes, puisque d'après cette écrit, en fait, elle fait référence à l'écrit sur l'apologie, référence à des critiques qui sont survenues après 1610, après la publication d'un libelle de sa part notamment, donc pour la minorité de 2013. Donc voilà, dans ce texte qui mêle vraiment les conjonctures, les contextes, un passage a attiré mon attention quant à l'objet de notre présente journée d'études, un passage que je vous lis et qui se trouve ici. Je vais lire ça. Enfin, toute forme saine et forte est répudiée en notre saison, et l'est aux femmes jusque à l'outrage, si elles ne sont redoutées par considération de la puissance de leur parentage, et parentage proche ou de leurs moyens. D'autant que le patron de leur sexe, sur lequel on les veut attacher, se trouve par mauvaise nourriture quelques degrés plus bas que celui du masculin, qu'il est déjà lui-même extrêmement, et particulièrement en une cour, surtout en une cour française. Puisqu'il faut que j'aie ce malheur d'être ainsi la butte du caquet, sinon pour être arrivé, du moins pour aspirer seulement à me garder jusque à cette forme saine et forte. J'ai coupé ici, mais j'ai gardé quasiment le passage en son entier pour aussi que vous puissiez entendre un peu ce qu'est la plume bourneillère. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire ensuite. C'est moi qui souligne la puissance évidemment de leur parentage proche. Donc ici, Bournay dénonce une réalité sociale qui lui est vraisemblablement familière, donc un parentage dénué d'une puissance suffisante pour protéger une réputation qui est d'ores et déjà fragilisée par sa qualité de femme, pauvre ou appauvrie qui plus est, dans ce qu'elle décrit. C'est peut-être un peu obscur, en forme saine et forte, ça renvoie à un passage précédent où en fait elle évoque les savantes qui sont présentées comme des écervelées, décrites comme des écervelées. Donc elle, en contrepoint de ça, elle dit qu'elle est, elle, de forme saine et forte. Mais donc voilà, il y a cette réalité-là sociale qu'elle dénonce, mais la question est la suivante, qu'en est-il réellement de cette parenté? Celle qu'elle présente donc dans cette apologie à travers le prisme des douloureuses transactions financières et notariales, celle qu'elle paraît assez souvent reléguée comme secondaire, dans certains écrits en tout cas, derrière la parenté née de l'alliance entre Montaigne et elle, celle qui la rattache aussi à un héritage catholique et ligueur, on le verra, celle qui fait état de sa position sociale et à travers laquelle elle construit ou bénéficie d'un réseau de relations, et celle qui, à travers son nom, je vais vous en parler aussi, participe de ses stratégies de publication. Donc, je vais tout d'abord vous présenter, enfin revenir assez rapidement sur les origines familiales de Gournay et la place aussi qu'occupe l'alliance avec Montaigne quand même au sein de ce parentage, avant de m'intéresser à la question des héritages de Gournay, héritages au pluriel, à travers notamment une décennie particulière, celle des années 1590, sur laquelle elle s'attarde justement dans cette apologie, parce que c'est en effet une conjoncture historique assez complexe qui marque aussi le début de la carrière de Gournay. Donc, ma première question. J'arrive à. J'ai plus la.
En fait, ça suit tes lignes.
Ah oui, ça suit les lignes. Est-ce qu'il faut que je le ferme?
Oui. Enfin, je ne sais pas.
Ah, sinon, descend, ça finira par
descendre.
Ah
oui, c'est ça. Ok, pareil. On va faire ça. Donc, ma première question, c'est donc qui est Marie Lejar? Parce qu'effectivement, le patronyme de Marie de Gournay est d'abord Lejar. Et alors, ce que je vous montre ici, hein, ce qui est affiché ici, c'est pas hyper lisible. Du coup, je suis désolée, mais je vais vous le décrire. C'est le fruit du travail de recherche de Michel Pojal, qui est indiqué en bas, qui est l'historienne et la biographe de Gournay. Donc, c'est elle qui a reconstitué cette généalogie que je vous présente ici. Et alors, d'emblée, donc, peut-être juste, vous voyez, hein, Marie de Gournay, elle est tout en bas et son nom est surligné. Hein, elle est la première des enfants, des sept enfants en tout de la famille Lejar. Et alors, on ne voit pas très bien, mais en fait, croyez-moi, on peut constater que la branche paternelle a laissé peu de traces archivistiques. Alors, Gournay, nous fournit quelques éléments dans un écrit intitulé « Copie de la vie de la damoiselle de Gournay » qu'elle fait paraître très tard, 1541, où elle indique que son père, je cite, « tirait le nom et l'origine noble du bourg de Jarre vers Sancerre ». Aujourd'hui, c'est dans la région Centre-Val-de-Loire, pour vous situer. Gournay précise dans ce même texte, en fait, le déclin des aïeux de Guillaume le Jarre, son père, appartenant au départ à la noblesse d'épée des campagnes et forcé de se tourner vers ce qu'elle appelle les vacations offertes par la ville pour survivre et donc faire prospérer à nouveau le lignage. Et effectivement, Guillaume le Jarre va être un homme de la ville et par l'intermédiaire de celui qui se trouve sur cette généalogie, en fait, juste au-dessus de lui, il y a ce Raoul Moreau avec une question, parce qu'on ne sait pas très bien quel est leur lien de parenté entre Guillaume et Raoul Moreau. On suppose que c'est son oncle qui est trésorier de l'épargne. Et donc, c'est par son intermédiaire que Guillaume entre dans la maison du roi en devenant, quant à lui, au départ trésorier d'une partie des gardes. Et puis, va accéder à une charge plus importante qui est celle de trésorier de la maison du roi. Et c'est cet office qui permet à Guillaume une forme d'ascension sociale à travers cette gestion des finances du roi, c'est relativement important, qui lui confère la possibilité de prêter de l'argent. C'est un pouvoir. Et juste, je précise à ce stade, puisque j'ai parlé des origines catholiques et ligueuses de Marie de Gournay, Michel Pojal indique que on sait que Guillaume le Jarre était un catholique, mais on n'a pas retrouvé dans ses biens personnels qui ont été dressés dans l'inventaire après décès des traces d'un engagement plus avant là-dedans. Voilà. Gournay emploie d'ailleurs qualifier son père le seul adjectif de catholique. Et puis, si je reste juste sur la branche paternelle, on a à côté de Guillaume son frère Louis le Jarre, qui, alors lui, est intéressant par rapport à Marie Gournay, parce que alors, Marie Gournay se présente, parce que c'est aussi toute la difficulté, c'est qu'elle a un vrai discours auctorial sur sa biographie, en fait, qu'elle reconstitue, et elle dit qu'elle a découvert Montaigne, les essais de Montaigne, comme ça, un peu par hasard, toute seule. En fait, Pogel fait l'hypothèse que c'est sans doute la bibliothèque de Louis le Jarre qui lui fournit. Lui présente les essais parce que c'est un auteur de pièces de théâtre. Il a écrit une pièce Lucelle, il l'a présentée devant Henri III en 1576, pièce qui n'est pas passée à la postérité. Mais je le mentionne, donc cet oncle Louis le Jarre, il a sans doute contribué à la formation intellectuelle de Marie de Gournay. Et puis, quand Guillaume le Jarre meurt assez tôt dans l'existence de Marie de Gournay, son père meurt en 1578, elle a 13 ans. Et donc, celui de Jarre vient seconder Jeanne de Agville dans la succession des Gournay. Je vais aller un peu plus vite, mais la branche maternelle, en fait, elle est beaucoup plus fournie. C'est ce qui se trouve sur la gauche de cette généalogie. En fait, ça remonte assez loin. Elle est beaucoup mieux reconstituée parce que Mfogel nous indique que c'est une véritable maison. Tous les membres de la famille Abbeville sont en lien avec les cours souveraines, soit de justice, soit de finance. Puisque Pierre de Hacqueville, donc qui est le grand-père de Marie Bournet, était le président à la Chambre des enquêtes, et son fils aîné et unique, qui est André de Hacqueville, devient quant à lui conseiller de cette même chambre en 1564, avant d'être le premier président au Grand Conseil. Et alors c'est lui, je le mentionne, cet André de Hacqueville, donc l'oncle, l'autre oncle, mais paternel, cette fois-ci de Marie Bournet, parce que c'est sans doute lui qui incarne le plus l'héritage vigueur de Marie Bournet, parce que il incarne la prise de position ligueuse au sein de cette parenté, parce que c'est lui qui est choisi par le gouvernement ligueur de Paris pour présider le Parlement en 1591. Voilà. Jeanne de Hacqueville, donc la mère de Marie Bournet, qui est le dernier enfant de Pierre de Hacqueville, elle est la seule en fait à faire un mariage qui ne renforce pas les liens de cette famille, de cette parenté avec les cours souveraines. Michel Fogel pense que les témoins présents au mariage entre Guillaume et Jeanne sont des bons indicateurs que c'est en fait la branche maternelle de Jeanne de Hacqueville. Donc là, il passe sur le document, mais c'est ce qui se trouve au milieu en haut, c'est les Bourgensis qui, eux, faisaient partie de la maison du roi. Et les enfants de Louis Bourgensis ont sans doute été à l'origine de ce mariage entre Jeanne de Hacqueville et Guillaume le Jard pour renforcer cette impulsion dans une maison du roi. Bon, voilà, je pense que... Oui, j'ai déjà passé beaucoup de temps, donc j'avance. Je vous montre rapidement, j'avais simplement en guise d'illustration pour vous parler un petit peu plus de l'implantation géographique de la famille Bournet, donc simplement vous indiquer qu'ils avaient des adresses à Paris, mais je passe là-dessus. Et pour peut-être juste, ça c'est important, en revanche, vous indiquer d'où vient le nom de Bournet, qui est donc celui que prend plus tard Marie Bournet. C'est à la naissance en fait de leur premier fils que Jeanne de Hacqueville et Guillaume le Jard achètent le fief de Bournay, vraiment le fief au sens médiéval du terme. C'est un fief qui se trouve en Picardie. Pourquoi au sens médiéval? Parce que c'est un fief qui comporte des droits de justice, entre autres, et qui peut permettre, et c'est sans doute l'idée en fait de Guillaume le Jard et de Jeanne de Hacqueville, la fondation d'une maison noble à travers cette passation au fils aîné. Et donc sur la carte que vous voyez pas en fait, mais c'est pas grave, j'ai retrouvé Bournet, parce que juste à noter, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fief qui n'a pas été choisi au hasard. Il y a une proximité avec Compiègne, notamment, également aussi avec Paris, c'est ça se situe dans l'Oise. Mais donc proximité avec Compiègne parce que c'est la ville qui devait accueillir Charles IX dans ses projets d'alliance à l'Espagne au départ, et sans doute d'ailleurs le fils aîné, le frère de Marie de Bournet, n'a pas été nommé Charles au hasard. Donc Bournet, c'était vraiment un endroit stratégique, et donc c'est le nom que Marie le Jard choisit d'utiliser ensuite, la damoiselle de Bournet, qui d'ailleurs désignait sa mère en fait, vivant sa mère. Puisque je vous spoil un peu, j'avance, mais Charles n'est pas du tout l'héritier attendu, il n'aura pas de descendance, en fait, il n'y aura pas de passation de ce nom Bournet, et finalement, ce n'est pas lui qui perpétue ce nom, mais c'est bien Marie. Et alors même que la propriété de Bournet, d'ailleurs, va être vendue en 1608, c'est-à-dire qu'elle ne fait même plus partie des possessions de la famille, quand Marie le Jard prend un privilège à son nom, en se disant la damoiselle de Bournet. Donc voilà. J'avais une partie, mais pareil, je vais un petit peu sabrer sur où est-ce que se situe ensuite le lien d'alliance avec Montaigne. Et là, simplement sur la diapositive, en fait, c'était une recherche de ma part parce que je m'interrogeais sur pourquoi ce terme alliance, qui en français est très obscur, parce que l'alliance, c'est normalement utilisé dans le cas d'une relation maritale, une relation de mariage. Et en fait, il faut remonter à l'étymologie latine pour comprendre d'où vient, pourquoi l'utilisation de ce terme en français. Et simplement regarder la deuxième ligne soulignée, en fait, en latin, il y avait un autre mot pour désigner l'alliance, et c'était notamment la cognatio, et une formule dans le dictionnaire de Jean-Nico de Cicéron résume ça, la cognatio studiorum, et c'est une alliance au sens de l'alliance intellectuelle. Donc voilà d'où ça vient. Donc, on connaît juste simplement, je vous ai présenté rapidement une partie du parentage de Marie Le Jard, et donc il est complété par ce parentage, non pas par une alliance maritale dans son cas, mais par une alliance qui a cette autre signification. La rencontre entre Montaigne et Gournay, elle a lieu 10 ans après la mort du père de Marie Gournay, elle a lieu en 1588, au moment où Montaigne est à Paris parce qu'il vient rapporter les résultats d'une mission diplomatique auprès d'Henri de Navarre à la reine-mère Catherine de Médicis. Et Gournay qui, alors bien sûr, elle raconte avec beaucoup de détails cette rencontre avec Montaigne, en jubilant quelque peu parce qu'en disant que c'est une rencontre qui a eu lieu de son propre chef. En fait, Michel Fauget vient un peu corriger ça, sans doute Jeanne de Agville, qui était donc à ce moment-là veuve, et présente à Paris pour le mariage d'une autre de ses filles, a sans doute contribué à permettre cette rencontre. Michel Fauget indique que d'ailleurs la raison pour laquelle sans doute Jeanne de Agville accepte cette rencontre, pas tellement pour accueillir l'auteur des essais, mais sans doute parce que, je cite, l'appui direct d'un gentilhomme qui parle au souverain a de quoi faire rêver cette veuve d'un ancien trésorier de la chambre du roi. Il pourrait faciliter ses tentatives pour approcher la société et la protection des grands. Et puis aussi alléger son souci de l'établissement de ses enfants, parce que je rappelle, ils sont 7 dans la famille Le Jard, et pour cette veuve qui, en fait, on va le voir après dans ce que je vous présente, mais elle écrit blé de dettes, et donc c'est assez compliqué d'établir ses enfants. Et puis en outre, ils appartiennent au même milieu social, Montaigne et la famille. Je pense que j'ai déjà atteint, donc je vais passer plus vite, mais en résumant un petit peu cette idée-là qui m'intéressait, c'est-à-dire l'idée des héritages de la damoiselle de Gournay, parce que, et en revenant justement sur cette décennie 1590, parce que en fait elle devient à ce moment-là héritière dans tous les sens du terme. En effet, donc c'est une période qui est extrêmement complexe sur le plan politico-religieux, mais c'est aussi une conjoncture familiale bouleversée pour Marie Gournay, parce qu'elle perd sa mère en 1591, donc au début de la décennie 1590, et elle apprend la mort de Montaigne quelques mois après qu'elle soit survenue en 1592, donc elle vit des deuils successifs. Mais pour autant, c'est aussi durant cette décennie qu'elle publie son premier texte, le Promenoir de Monsieur de Montaigne, qui intervient en 1594, et aussi qu'elle est désignée par la veuve de Montaigne comme... Françoise de la Chassagne, comme celle en charge de l'édition posthume des essais, édition pour laquelle elle rédige une longue préface. Donc c'est une décennie qui marque son entrée par la publication dans la République des Lettres, et ses parentages, ils sont tous sauf étrangers, à la fois pour le rôle qu'ils y jouent réellement, ou pour celui que Gournay leur fait jouer à ce moment-là, ou plus tard, lorsqu'elle revient sur cette période en 1626. Et je trouve en effet assez frappant la façon dont Gournay s'attache à retracer cette période dans l'apologie. Donc c'est pour ça, en fait, là, l'extrait que vous avez, si dans la discussion on a le temps, on y reviendra, mais c'est assez intéressant. Elle est loin, en fait, de l'exactitude factuelle qu'elle affirme, d'ailleurs. On entend vraiment l'amertume, et c'est notamment le cas dans cet extrait, qu'elle ressent vis-à-vis des choix de sa mère, et également de certaines trahisons de ses frères et sœurs de sang au moment de l'héritage. Donc, on comprend d'ailleurs en 1626 qu'il s'agit là un peu d'ordonner cette période de chaos tout en lui donnant un but qu'elle n'avait pas nécessairement au départ. Puisque Gournay explique aussi qu'elle avait d'ores et déjà en tête une sorte de stratégie, c'est ce qu'elle explique dans l'apologie, pour recevoir ensuite les grâces de cette majesté qu'elle reçoit plus tard. Voilà, et la publication, elle joue un rôle de premier plan. Mais en réalité, au sein d'un royaume proie au dernier feu des troubles de religion, Bournet, elle a dû bien davantage s'appuyer sur ses parentages biologiques, on va dire, pour survivre. Hein. On sait qu'à la mort de sa mère, en fait, elle est à Bournay, mais c'est un théâtre de guerre, donc elle se rend à Cambrai, qui est une puissante ville libre, chez le sieur de Balagny et de René de Clermont-d'Amboise. Et c'est tout. En fait, c'est un lien, elle n'y va pas par hasard, c'est à travers sa famille maternelle en fait, qu'elle cherche, c'est à travers sa famille maternelle qu'il faut chercher un lien avec la famille justement de Clermont-d'Amboise. Et donc voilà, Bournet ne se rend pas par hasard là-bas. Et d'ailleurs, avec le Promenoir en 1594, des poèmes sont publiés qui esquissent cette société de cour étrangère qu'elle a fréquentée. Donc ça, c'est ce qu'elle, en 1626, elle revient un peu là-dessus pour démontrer une stratégie. Mais dans les années 1590, quand elle publie le Promenoir, c'est le parentage avec Montaigne qu'elle souligne, c'est ça qui est intéressant, puisqu'elle ne signe pas encore de nom de Bournet, mais elle signe avec le seul titre de fille d'alliance, hein, ce qui n'est qu'un seul titre. Et donc, elle utilise le legs, à la fois le legs des essais, de l'édition des essais qui est offert par la veuve de Montaigne, et ce titre-là pour se faire une place à ce moment-là. Et donc, elle minimise un peu le parentage aussi que je vous ai présenté, mais sur lequel elle revient donc plus tard. Voilà, et donc simplement, je me dis que cette décennie 1590, sur laquelle Marie Bournet voilà, revient beaucoup plus tard, c'est une conjoncture assez intéressante. Bon, je ne m'entre pas plus dans les détails, mais qui marque à la fois un profond chaos et en même temps un moment où elle essaye de constituer une forme de stratégie d'entrée dans la République des Lettres, et à travers le nom de Montaigne en particulier.